Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
S'il soit dit.
Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Mes très chers frères, en ce beau jour, nous célébrons la mort, la résurrection et la montée au ciel, donc l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, de la Mère de Dieu. L'Église nous fait contempler le cantique qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, fut celui qu'elle a fait monter vers Dieu lors de sa visitation à sa cousine Élisabeth, Magnificat anima mea dominum. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons aujourd'hui essayer de voir certaines choses, un petit peu de certains enseignements que la très sainte Vierge Marie nous enseigne dans son cantique. Ce sera l'essentiel de notre sermon pour aujourd'hui. Nous suivrons simplement le cantique Magnificat et nous donnerons quelques explications avec bien sûr l'aide des pères et de la tradition de l'Église. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
La grandeur de la très sainte Vierge Marie, nous dit un auteur, se mesure à son humilité et à son abaissement. Nul saint n'a été sur la terre plus humilié comme elle le fut. De princesse qu'elle était, fille de David, fille de Salomon, elle fut la femme d'un charpentier. Il est vrai que Saint Joseph descendait aussi lui-même par une autre branche du roi David, mais il était humilié dans son métier. Ce n'est pas que c'est un métier humiliant en soi, mais ce sont, pour les descendants de David, ce sont des occupations qui sont bien en deçà de leur rang. Mais c'est bien plus que cela. Si ce n'était que cela, ça serait simplement la gloire temporelle à laquelle la très sainte Vierge n'était pas attachée. De mère de Dieu, elle est devenue la mère d'un crucifié. Et quoique ce crucifié le fût injustement, et que ce fût son fils, que ce fût le fils de Dieu, et qu'il fût ressuscité, il se trouve que la mère d'un crucifié est une personne qui est déshonorée dans la société. Alors, la Sainte Vierge n'a pas été déshonorée à cause de cela, mais le Fils de Dieu que Saint Gabriel est venu lui, l'archange, est venu lui apporter, enfin, dans cette maternité divine dont Saint Gabriel est venu la gratifier de la part de Dieu, eh bien, cette maternité divine semble s'être, à un certain moment, terminé à la crucifixion de ce fils miraculeux. Bien sûr, la Sainte Vierge l'a vu ressuscité, elle était avec les apôtres lors de la Pentecôte. Mais aucun saint, a fortiori aucune sainte, n'a été plus humilié que la très Sainte Vierge Marie. Son fils lui-même l'a rabaissé en ne lui donnant jamais, nous disent les commentateurs, le nom de mère pendant tout son ministère public. Il l'appelle femme, lors des noces de Cana, alors même que la très sainte Vierge Marie inaugure ses miracles et nous procurera le miracle de l'Eucharistie, la transsubstantiation. Il lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi ?» Lorsque on lui dit que sa mère et ses frères veulent le voir, il prend à témoin ses disciples et il dit « Ceux-là sont ma mère, mes frères, mes sœurs, tous ceux-là qui font la volonté de Dieu. » Lorsqu'une femme de la foule, admirant son enseignement, lui dit « Bienheureux, bienheureuse votre mère », il lui dit « Bienheureux plutôt ceux qui gardent la parole, qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». On dirait que la très sainte Vierge Marie a été la plus humiliée de toutes les créatures. Même son fils, lorsqu'elle le retrouvera à Jérusalem, en écoutant et répondant au docteur de la loi, lorsqu'il avait 12 ans, son fils lui a dit « Pourquoi me cherchez-vous ? » Vous voyez, et elle a été humiliée dans le sens où l'Évangile nous dit qu'ils n'ont pas compris, ni lui, ni elle, ni son père adoptif, n'ont compris ce qu'il leur disait. La très sainte Vierge Marie est donc, de toutes les créatures qui ont existé et qui existeront sur la terre, celle qui a été la plus humiliée, non seulement par les hommes, elle ne l'a pas été énormément par les hommes, même si sa grande humilité a été, humiliation en quelque sorte, a été d'être sous un certain rapport méconnue des hommes, puisqu'elle a, elle a vécu pendant, depuis la Pentecôte jusqu'à sa mort, elle a vécu d'une façon très cachée. Elle n'est pas intervenue dans la vie de l'Église, sinon par sa prière et son intercession. Mais on ne la voit plus dans le Nouveau Testament à partir de la dernière mention qui est faite d'elle dans le deuxième chapitre des Actes, au moment de la Pentecôte. La très sainte Vierge Marie n'a pas tellement été humiliée de la part des hommes, mais de la part de Dieu lui-même. Elle a été exaltée, nous allons le voir, bien entendu, mais c'est paradoxal. Mais son Fils lui-même l'a humiliée comme il humiliera, en quelque sorte, le plus grand de ses apôtres, Saint Paul, Saint-Pierre, bien sûr, le prince des apôtres, mais Saint-Paul, en ne lui permettant pas de voir cette épine, cette écharpe dans la chair, lui être ôtée. Ma force, ma grâce te suffit, ma force se manifeste dans ta faiblesse, nous dit notre Seigneur à Saint-Paul. La très sainte Vierge Marie a été traitée plus rudement encore que Saint-Paul par son propre fils. Alors on va dire, est-ce que c'est digne, est-ce que de la part d'un fils qui est tenu au quatrième commandement, fut-il le fils de Dieu, et c'est vrai, est-ce que c'est indigne de traiter sa mère comme il l'a traitée? En réalité, vous pensez bien que notre Seigneur n'aurait jamais pu maltraiter sa mère. Donc, s'il l'a traitée comme il l'a traitée, c'est que, tant sous le rapport de sa divinité que sous le rapport du quatrième commandement, à la lumière de sa divinité, il ne pouvait pas la traiter autrement. Car la traiter autrement, c'est-à-dire lui prodiguer des louanges, imaginez si cette brave femme qui lui disait « Bienheureuse la mère qui vous a porté », etc., il lui avait sorti de son petit portefeuille une photo de la Sainte Vierge en disant « Effectivement, j'ai toujours une photo de ma maman sur moi, elle est tellement belle, elle est tellement merveilleuse, elle m'a tellement bien élevée. » Est-ce que la Sainte Vierge aurait reçu la louange qui lui est due? Non. Si c'est déjà un peu ridicule de la part d'un homme, ça l'est d'autant plus, et c'est même indigne de la part d'un Dieu. La très sainte Vierge Marie, parce qu'elle est l'Immaculée Conception, parce qu'elle est la mère de Dieu, parce qu'elle est la triomphatrice de toutes les hérésies, parce qu'elle est la reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes, reine des apôtres, reine des martyrs, reine des confesseurs, reine des vierges, reine de tous les saints, ou bien elle est glorifiée de la manière dont elle ne le pouvait être qu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire par l'Assomption, ou bien au commencement de sa vie et pendant tout le temps de sa vie terrestre, son exaltation se manifeste paradoxalement par son abaissement. La très sainte Vierge Marie a été, de toutes les créatures, de tous les saints, celle qui a été la plus abaissée, la plus humiliée par Dieu, parce que la grandeur de la très sainte Vierge Marie se mesure à son humilité et à son abaissement. Et si elle avait été simplement humiliée par son Fils, humiliée par Dieu, tenue dans l'obscurité au sein de l'Église, ça aurait été déjà une grande humiliation. Mais elle a consenti volontairement à cette humiliation, elle s'y est prêtée totalement, elle a entièrement consenti par un fiat qui s'est prolongé durant toute sa vie, de telle sorte que, s'étant humiliée de la façon la plus absolue possible, et qui soit possible à un être humain, puisque la très sainte Vierge est un être humain, eh bien, elle a été exaltée au-dessus de tout ce qui est possible pour un être humain d'être exalté, car la mère de Dieu n'est pas simplement, la très sainte Vierge Marie n'est pas simplement un être humain comme un autre, elle est la mère de Dieu. Elle est celle qui a été élue par Dieu, qui a été formée par son propre Créateur pour être sa mère. Nous ne pouvons comprendre la grandeur de la très sainte Vierge Marie que si nous comprenons, si nous plongeons, nous laissons nos regards plonger dans l'abîme de son abaissement et de son humilité volontaire, et je dirais même de son humiliation volontaire, car il ne s'agit pas simplement d'une humilité simplement volontariste, volontaire, comme nous pourrions le faire, mais c'est une humiliation de la part de Dieu qui a été accueillie par elle comme une humilité volontaire. Il y a donc quelque chose de très important et de très remarquable dans cette exaltation de la très sainte Vierge Marie qui fait l'objet de cette fête d'aujourd'hui, l'Assomption, parce que si elle a été assomptionnée au ciel, c'est qu'elle a été ici-bas le contraire d'une personne livrée à son amour propre. Et c'est peu dire, car la très sainte Vierge Marie avait un amour propre, puisqu'elle était une vraie créature humaine, Elle n'avait pas la concupiscence puisqu'elle était l'Immaculée Conception, mais il se trouve qu'elle a été tentée comme nous tous, puisque son propre fils a été tenté. Donc vous pensez bien que si son fils a été tenté par le diable, elle-même, sous un certain rapport, non pas de la même manière, mais d'une certaine manière, elle a pu être tentée par l'orgueil, et elle ne l'a pas été. Mais nous allons voir justement, en parcourant le cantique du Magnificat qu'elle a chanté, eh bien, nous allons voir qu'elle n'a pas simplement résisté à l'orgueil, d'être la tentation de l'orgueil d'être la mère de Dieu, mais elle a efficacement non seulement contré l'orgueil en elle, qui n'aurait pas pu, mais si elle avait pu être orgueilleuse, elle l'aurait contré efficacement, mais surtout elle nous a donné la formule, si j'ose dire, pour détruire, ou plutôt contrer l'orgueil en nous, lorsque nous sommes tentés de nous enorgueillir des ordures qui font notre gloire, alors qu'elle ne s'est pas enorgueillie d'être la mère de Dieu. Je dirais même d'avoir mérité d'être la mère de Dieu. Lorsque elle a su, par l'ange Gabriel, Saint Gabriel, que sa cousine Élisabeth attendait elle-même un enfant dans sa vieillesse, et qu'elle était à son sixième mois, la Sainte Vierge s'est levée et s'est dirigée précipitamment dans les montagnes de Juda, où vivaient Élisabeth et son mari Zacharie, qui étaient des gens pieux, afin de pouvoir assister Élisabeth, mystérieusement. Et au moment où, nous dit l'Évangile, au moment où la Très Sainte Vierge a salué sa cousine Élisabeth, l'enfant, donc Saint Jean-Baptiste, qui n'était pas encore né, a tressailli de joie, et l'Église nous dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit, purifié du péché originel. Jusque-là, Saint Jean-Baptiste avait été un enfant d'origine miraculeuse, dans un sens où ses parents étaient trop âgés pour avoir des enfants, puisqu'il n'en avait pas eu, sa mère était stérile. Et à partir de ce moment-là, il a été en quelque sorte consacré le précurseur de notre Seigneur, de telle sorte qu'il a été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, comme le prophète. Sainte Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, s'écria d'une voix forte, « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et bénie le fruit de votre sein. » C'est la première partie de l'invocation, la prière angélique, c'est-à-dire l'Ave Maria. Et elle continue, « Et d'où m'échoit cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne me faire visite ?» Car voyez-vous, dès l'instant où votre salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Et voici ce qu'elle lui dit. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est exactement la même chose que dira notre Seigneur dans un éloge, en réalité paradoxal, qu'il fera de sa mère, à cette brave femme qui vantait sa mère. Il lui dit, bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la retiennent, et qui la mettent en pratique. C'est ce qu'a fait la Très Sainte Vierge Marie, plus qu'aucun de nous ne pourra jamais le faire, qu'aucune femme ne pourra le faire, puisqu'elle a retenu la parole de Dieu et elle l'a mise au monde, puisqu'elle est véritablement la mère du Verbe incarné. La Très Sainte Vierge Marie a donc, à un moment de sa vie, à un seul instant de sa vie, et c'est remarquable, elle a reçu une louange qui était proportionnée à son mérite. C'est la louange qu'elle a reçue de Sainte Élisabeth. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. La Très Sainte Vierge Marie a cru qu'elle serait la mère de Dieu, puisque Dieu le lui a promis, et elle est devenue la mère de Dieu, de telle sorte que son fiat lui a mérité d'être la mère de Dieu. Alors les commentateurs nous disent que la louange que la Très Sainte Vierge Marie a reçue ici, même si cela nous paraît une parole petite, c'est une parole, si on devait l'approfondir, nous ne le ferons pas aujourd'hui, mais c'est une parole d'une extrême grandeur, c'est une parole d'une si extrême grandeur qu'elle est en quelque sorte proportionnée au mérite de la Très Sainte Vierge Marie. Mais en entendant cette louange, la Très Sainte Vierge Marie, qu'a-t-elle fait? Elle a dit... Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur et c'est le Magnificat. » Elle n'a pas répondu, « Non, vous savez, à Sainte Élisabeth, je ne suis pas digne, je ne suis qu'un ver de terre, je ne suis rien du tout, je ne mérite pas. » Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a immédiatement loué Dieu. Elle a triomphé de la tentation de l'orgueil par la sanctification du nom divin. Écoutons ce qu'elle dit. « Magnificat anima mea dominum. Mon âme... magnifie le Seigneur. Mon âme exalte, magnifie le Seigneur. » Sainte Élisabeth, nous venons de le dire, la loue de ce qu'elle a cru. Pour l'âme humble, nous disent les moralistes, la louange apparaît comme le plus grand des dangers. Et l'âme humble n'a qu'une seule hâte, c'est que la louange qu'on lui adresse, à juste titre, cesse. Et non seulement que la louange qu'on lui adresse cesse, mais encore que la persécution vienne, de telle sorte que le mérite que la louange souligne, eh bien, ne soit pas perdu par l'orgueil qui suit la louange, habituellement. Ce n'est pas le cas chez la Sainte Vierge, bien sûr, puisqu'elle elle est immaculée, elle a été préservée du péché originel. Néanmoins, elle a dû réagir comme réagit tout le monde, ne serait-ce que pour notre édification, mais aussi pour son propre honneur, pour l'honneur de Dieu, puisqu'elle ne pouvait pas réagir d'une façon moins glorieuse que la façon, et moins parfaite que la façon dont elle a réagi. Donc, pour l'âme humble, la louange apparaît comme le plus grand des dangers, et c'est pour ça que, en exaltant le Seigneur, la Très Sainte Vierge Marie met fin aux paroles de louange qu'elle a entendues, elle met fin même à l'audition des paroles de louange, encore une fois qu'elle a mérité, mais elle y met fin, comment? En glorifiant Dieu. C'est pourquoi c'est une occasion pour elle, cette louange, qui, à juste titre, c'est une vraie louange qu'elle méritait, mais c'est une occasion pour elle de s'élever à Dieu et de glorifier le Seigneur de ses dons. La louange ne grandit pas Dieu lorsqu'elle dit « Magnificat anima mea dominum », littéralement, ça signifie « mon âme magnifie Dieu », c'est-à-dire « mon âme rend Dieu grand ». Les commentateurs nous disent, je pense à saint Thomas en particulier, qui disent « il n'y a aucune, la louange de l'homme, même la louange de la Très Sainte Vierge Marie, n'apporte rien à Dieu, dans le sens où elle ne lui donne pas quelque chose qu'il n'avait pas avant ». En revanche, en magnifiant Dieu, justement, l'âme, en quelque sorte, si l'on peut dire, devient plus grande. La louange élargit l'âme. La louange dilate l'âme, non pas par une sorte de dilatation d'orgueil qui est en réalité une sorte de constriction, mais la louange, nous disent les pères de l'Église, dilate l'âme de telle sorte que l'âme faite à l'image de Dieu devient capable de refléter encore plus et encore mieux la beauté divine dont elle est investie. On ne peut louer Dieu de tout son cœur que dans la mesure où l'on aime Dieu. Quand on aime Dieu, la gloire de Dieu rejaillit sur l'âme qu'il aime, puisque l'amour de Dieu est une participation à l'être même de Dieu qui est amour. Plus l'âme exalte et magnifie le Seigneur, plus elle se grandit, plus elle grandit d'une certaine manière, non pas qu'elle devient plus grande au sens qu'un corps deviendrait plus grand, mais elle devient plus vaste, plus noble, et devenant plus vaste et plus noble, elle a de nouveaux moyens de glorifier Dieu, c'est-à-dire de refléter la gloire de Dieu. Un petit peu comme la différence entre un miroir, un petit miroir et un grand miroir qui reflète le soleil, les deux font sur le mur une tache de lumière. Mais le miroir plus grand, plus le miroir est grand, plus de soleil en quelque sorte, plus le reflet du soleil est grand. Faites l'expérience, tout le monde a fait l'expérience de voir un miroir refléter le Seigneur, le soleil, plus le miroir est grand, plus la lumière est immense. C'est pour cela que Archimède, avec de grands miroirs, a réussi à mettre le feu aux flammes de la ville, aux flammes de la flotte qui venait attaquer la ville de Syracuse. Donc vous voyez, plus le miroir est grand, plus le soleil est exalté. Le soleil ne bouge pas en lui-même, bien entendu, mais le soleil est exalté et magnifié par le miroir qui est grand. Et plus l'âme loue le Seigneur, plus elle grandit et plus elle devient capable de refléter sa beauté divine. Combien la Très Sainte Vierge Marie a étendu son âme par ses paroles « Magnificat anima mea dominum », nous ne pouvons pas le savoir, c'est un mystère, c'est le mystère de la gloire de la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie a exalté Dieu d'une façon qui n'est simplement inférieure qu'au Verbe divin, son Fils qui a magnifié Dieu d'une façon divine, puisqu'il est le Verbe éternel de Dieu. La Très Sainte Vierge Marie, comme créature, comme mère de Dieu, a magnifié Dieu au-delà de ce que les plus grands saints ont pu faire pour magnifier Dieu et ont élargi leur âme pour et magnifier Dieu. La Très Sainte Vierge Marie, en s'humiliant face à cet éloge que faisait d'elle Sainte Élisabeth, a magnifié son âme de telle sorte qu'elle a reflété la grandeur divine d'une façon qui est bien supérieure à celle dont sont capables de le faire les saints et tout le monde en général. toujours apporter à Dieu, c'est ainsi, mes très chers frères, que nous combattons l'orgueil. La très sainte Vierge Marie, encore une fois, n'a pas dit de vaines paroles pour minimiser ce que sainte Élisabeth disait, puisqu'elle disait quelque chose de vrai. Mais elle a tout rapporté à Dieu. Elle a dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. » Tout rapporter à Dieu, c'est faire diminuer l'amour-propre, cette vanité qui s'attribue tout. Une fausse humilité, nous disent les auteurs, est une fausse humilité est une double vanité. C'est-à-dire que non seulement nous sommes vaniteux, mais d'une façon cachée, mais encore nous sommes vaniteux de sembler humbles. C'est une double vanité. L'orgueil ne combat que pour la reconnaissance qu'il peut mériter. Celle-ci se manifeste par l'application à tout capter et à ne rien renvoyer vers Dieu, tout capter des grâces que Dieu nous fait, des dons que Dieu nous a donnés, et ne rien renvoyer par Dieu. L'humilité, au contraire, s'applique à faire usage des grâces reçues pour la glorification du nom divin. Effectivement, sainte Élisabeth avait compris prophétiquement que qui était la Sainte Vierge, comment et de quel don elle avait été gratifiée. Et la Sainte Vierge, au lieu de s'humilier simplement en parole, a magnifié le Seigneur de telle sorte qu'elle a terrassé l'amour-propre, ou du moins en nous-mêmes, elle nous a donné le moyen de terrasser l'amour-propre en comprenant par la compréhension que dans la mesure où nous rapportons tout à Dieu, eh bien, nous ne rapportons plus rien à nous-mêmes, et donc c'est ainsi véritablement que nous nous avérons humbles. Et exultavit spiritus meus, ideo salutari meo. Que les chrétiens apprennent de leur mère, nous dit un auteur, à ne se réjouir des grâces de Dieu qu'en lui et que pour lui. La joie du Seigneur, dit le prophète, est votre force. La joie spirituelle vient de ce qui est cru et de ce qui est cru est aimé. Nous croyons, puisque nous avons reçu la grâce de croire, nous croyons, mais aimons-nous ce que nous croyons. Nous croyons en Dieu, aimons-nous Dieu. La Sainte Vierge croyait en Dieu, et elle s'est réjouie en Dieu son Sauveur. C'est très simple, c'est le béaba de la vie chrétienne, et pourtant, bien souvent, nous oublions que ceci est le béaba de la vie chrétienne. La source de notre exultation est à la fois pure et éternelle. Dieu, comme source de tout bien, est aussi la fin de tout bien. Si nous recevons des biens de la part de Dieu, c'est pour en faire usage, pour sa gloire. Ce n'est pas pour en jouir indépendamment de lui, puisque nous en jouirons alors sous l'auspice du démon. Si nous recevons des grâces de Dieu, si nous recevons même des biens temporels de Dieu, c'est pour en utiliser droitement, conformément à la volonté de Dieu, conformément à la droite raison, telle que la foi l'illumine. Dieu est donc source de tout bien, c'est la source très pure des vrais biens qui nous sont donnés, de quelque ordre, de quelque manière qu'ils nous soient donnés, c'est la source très pure de tout bien. Recevoir ces biens et se réjouir de la réception de ces biens, c'est donc faire remonter ces biens vers Dieu qui est leur source. Et c'est une source qui est inépuisable, de telle sorte qu'elle ne fait jamais défaut. C'est une source qui rejaillira, nous dit notre Seigneur, jusque dans la vie éternelle. Et particulièrement, c'est particulièrement le don du Saint-Esprit. Il se trouve donc, mes très chers frères, que cette exultation de la très sainte Vierge Marie en Dieu son Sauveur a été une manifestation de la puissance de Dieu, puissance qui s'était déjà manifestée en elle par la conception de cet enfant divin qui est notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi c'est une joie qui a fait que par la suite, alors même que saint Siméon lui a annoncé que le glaive lui transpercerait l'âme, eh bien, c'est une joie qui fait qu'elle a toujours tout accueilli de la part de son Fils, de la part de Dieu, de la part des hommes, de la part de l'Église. Elle a tout accueilli avec une paix incommensurable. Le propre de la très sainte Vierge Marie, c'est d'être en paix. C'est d'être véritablement en paix. Et cette paix est une paix d'origine surnaturelle qui ne se comprend que dans la mesure où l'Esprit, où l'on comprend que l'Esprit exulte en Dieu son salut. Deo salutari meo. Dieu, mon salut, c'est donc Dieu spécialement connu dans notre Seigneur Jésus-Christ, notre salut. Notre Seigneur Jésus signifie salut de Dieu. Dieu sans notre Seigneur Jésus-Christ est bien souvent la projection de notre moi. Lorsque nous disons « Mon Dieu, je vous aime », bien souvent, c'est comme si nous disions « Moi-même, je m'aime ». Et c'est bien le cas. Bien souvent, il y a des gens qui s'imaginent être maintenant au comble de la sainteté, au comble comme ça, et qui disent à leur prochain, moi, je n'ai plus qu'une seule parole devant le Saint-Sacrement, je dis, mon Dieu, je vous aime, tout le reste, maintenant, j'ai complètement dépassé tout le reste, je ne dis plus que ça. Eh bien, il suffit de regarder 2 minutes ces gens pour s'apercevoir, et ce n'est pas une témérité que de dire cela, mais s'apercevoir que le Saint-Sacrement est pour eux comme un miroir, et que le Dieu qu'ils aiment, c'est eux-mêmes. Vous allez dire, comment pouvez-vous dire ça? C'est la Très Sainte Vierge qui le dit. In Deo salutari meo. On ne peut pas dire Dieu, mon Dieu, je vous aime, en oubliant que s'il est notre Dieu, c'est par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre salut. Donc, mon Dieu, qui est mon salut, je vous aime, véritablement, c'est une expression de l'amour de Dieu qui n'est pas susceptible d'être captée par l'amour propre. Mon Dieu, je vous aime, mon Dieu, qui est mon salut, qui est mon Jésus, comme dit le prophète, Ignésuméo, et qui est mon salut, de telle sorte que je, par notre Seigneur Jésus-Christ, aimé, glorifié, obéi, Dieu le Père et notre Père Céleste, qui nous a aimés le premier. Donc vous voyez la doctrine de In Deo salutari meo, il y a la doctrine de la médiation du Christ. Le Verbe éternel de Dieu, c'est lui, et c'est par lui qui nous fait aimer, et ce que nous aimons, c'est lui qui nous fait aimer le Père, et c'est par lui que nous aimons le Père, de telle sorte que nous l'aimions, que nous le glorifions, que nous l'obéissions pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nul ne va au Père que par moi, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il est impossible d'aller au Père sinon par le Christ. Il est impossible de louer Dieu sans se tromper sur soi-même si nous ne louons pas, nous ne le louons pas par celui qui est la source de tous nos mérites, et qui est la source même du salut, et qui est le salut, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Sainte Vierge continue, « Quia respexit humilitatem ancilestue, et ce nimexoc beata medicent omnes generationes. » Quia respexit humilitatem ancilestue. Voilà quelque chose de très important. Parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante. La Sainte Vierge répond à Sainte Élisabeth, nous l'avons dit, elle lui répond que tout son mérite consiste dans le regard qu'il a plu à Dieu de jeter sur sa bassesse, et que ce regard est la source de sa foi et des grandes choses qu'il a opérées en elle. Comment la Sainte Vierge nous enseigne-t-elle à réfuter, à récuser l'orgueil et la vanité, en rapportant tout à Dieu et en disant « si j'ai cru, c'est parce que Dieu m'a donné de croire ». Vous allez dire « même la Sainte Vierge ?» Même la Sainte Vierge. A fortiori la Sainte Vierge. Si la Sainte Vierge avait cru par elle-même, Dieu serait tributaire d'une créature. Donc le pélagianisme aurait tort pour tous les hommes, sauf pour une. Et c'est impossible, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Sainte Vierge a été, par l'anticipation des mérites de son Fils, préservée du péché originel. Elle doit donc tout à son Fils avant tout le monde. Il ne faut surtout pas céder à ces fausses doctrines du démon qui font nous imaginer que la Sainte Vierge a été préservée du péché originel indépendamment des mérites de son Fils. C'est véritablement une doctrine démoniaque. Et pourtant, elle est à un cheveu de la doctrine divine. La Sainte Vierge a été préservée du péché originel, c'est vrai, mais en vertu des mérites anticipés de son Fils, en vue des mérites de son Fils, dit le dogme. Faisons très attention. Donc la Très Sainte Vierge Marie doit tout à son Fils, alors même que son Fils n'avait même pas encore commencé son ministère. Si elle a été rachetée par son Fils, elle l'a été d'une façon incommensurablement plus glorieuse que nous-mêmes. Nous sommes rachetés par son Fils, bien entendu, le même Fils, le même sang, mais il se trouve que bien souvent nous retombons dans nos péchés. La Très Sainte Vierge Marie a non seulement été rachetée de telle sorte qu'elle a été pardonnée du péché originel, purifiée du péché originel, mais c'est bien plus, elle a été préservée du péché originel. De telle sorte que le pardon, en quelque sorte, de Dieu, s'est trouvé en amont de son existence et non pas en aval, contrairement à nous. La Sainte Vierge n'a pas donc été purifiée du péché originel, elle a été préservée du péché originel, ce qui fait d'elle la première des créatures à devoir non seulement la gratitude envers son Fils, mais une gratitude infinie. Et cette gratitude infinie, illimitée, la Très Sainte Vierge en a fait preuve en disant, parce qu'il a regardé l'humilité, la bassesse de sa servante. En rapportant l'acte même de sa foi à Dieu, la Très Sainte Vierge Marie coupe non seulement la racine de l'orgueil, mais elle se reconnaît tributaire de Dieu avant même son existence. Le fiat de la Très Sainte Vierge Marie est la réalisation de son élection de Mère de Dieu, quoiqu'il lui confère le mérite de la soumission volontaire à la volonté divine. Elle impute à Dieu et non à elle-même, elle l'impute à Dieu et non à elle-même, voyant en Dieu ses propres actions. La Très Sainte Vierge Marie était si pure et si sainte, elle est si pure et si sainte, qu'elle se voyait elle-même en Dieu, elle se voyait elle-même telle que Dieu la voyait. Si nous nous voyons telle que Dieu nous voyait, nous verrions deux choses presque simultanées. Nous verrions un abîme de néant et de concupiscence, par un certain côté, et d'un autre côté, nous nous verrions aimés par Dieu, de telle sorte que nous verrions de quel amour nous avons été aimés. Tandis que la Très Sainte Vierge Marie, qui n'a jamais connu le péché, puisqu'elle en a été préservée, eh bien, se voyant en Dieu, se voyait entièrement tributaire de Dieu, de telle sorte que loin de l'humilier, loin de, en quelque sorte de l'humilier au sens vaniteux du terme, cette vision la magnifiait justement. Et c'est pour ça qu'elle dit « il a contemplé, il a regardé la bassesse de sa servante ». Alors on dit « bassesse » n'est peut-être pas le mot, c'est peut-être humilité. La vraie humilité, c'est la bassesse. Alors vous allez dire « mais attention, vous êtes en train de donner raison à tous les ennemis du christianisme qui font consister justement leur mépris pour le christianisme dans cette notion d'humilité-bassesse ». Non. Lorsque le néant se reconnaît néant, et qu'en se reconnaissant néant, il est rempli de Dieu qui est tout, ce néant est Dieu. Tandis que quand un homme se glorifie et ne veut pas se reconnaître humble, un homme, une femme, un être humain, hein, parce que certains disent que c'est, y a que les hommes qui sont capables de cette abjection, mais les femmes aussi, il se trouve que lorsque l'être humain se magnifie aux dépens de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il ne fait que remuer du néant, si vous permettez l'expression, ne pas aller plus loin, de remuer autre chose. Lorsque l'homme se magnifie, il remue du néant. Lorsque le néant s'affirme néant en Dieu, il est Dieu. La Très Sainte Vierge Marie est Dieu, sous un certain rapport, dans le sens où elle n'est tellement pas elle-même, elle est totalement Dieu. Elle est une créature, bien entendu, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais elle est, de toutes les créatures, celle qui est la plus conforme à Dieu, puisqu'elle est celle qui est la plus déprise d'elle-même. Parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante, il a regardé le néant de sa servante. Mais vous voyez, malheureusement, à notre époque, il n'est pas difficile de trouver des gens qui vont vous parler de leur néant, du néant de la créature, etc. Alors, malheureusement, par néant, comme c'est un mot qui ronfle, c'est un mot un peu étrange, et ils vont encore se sentir orgueilleux de se dire néant. Parler de bassesse. La bassesse, mais qu'est-ce que c'est? La bassesse, c'est l'abjection, c'est l'abaissement, c'est le fait de gire par terre. Eh bien, si cela peut casser l'orgueil que vous avez quand vous parlez de votre néant, parlez de votre bassesse. Parlez-en comme la Très Sainte Vierge Marie, si vous en êtes capable. Il se trouve que la Très Sainte Vierge Marie ne s'est pas glorifiée d'être néant, elle a parlé de sa bassesse, et c'est ainsi qu'elle est divine. Quae resurrexit humilitatem ancillae suae. Sa servante, elle se dit la servante du Seigneur. La servante du Seigneur, c'est celle qui a mérité d'être la mère de Dieu. C'est celle qui a mérité d'être la reine du ciel, la reine des anges, comme je l'ai dit, la reine que nous fait acclamer l'Église. Elle se dit la servante du Seigneur. À aucun moment, la Très Sainte Vierge Marie n'a cessé d'être la servante du Seigneur. Actuellement encore, et de toute éternité, si j'ose dire, si je pouvais dire, la Très Sainte Vierge Marie est la servante du Seigneur. Si elle n'était pas la servante du Seigneur, qu'est-ce qu'elle serait? Elle serait la maîtresse du Seigneur, elle serait et donc, ça voudrait dire que notre Seigneur serait soumis à une créature, ce qui est impossible. Il lui a été soumis pendant le temps de sa vie, de son enfance, plus précisément. C'est vrai, il lui est encore soumis par le quatrième commandement, qui est une galanterie divine envers la créature qu'est sa mère. Mais il se trouve que la Très Sainte Vierge Marie, actuellement, elle qui est la reine de tout, est la servante du Seigneur. Donc si la reine des reines, la reine universelle, est la servante du Seigneur, mes très chers frères, ne répugnons pas au fait d'être les serviteurs du Seigneur, les esclaves du Seigneur. La servante du Seigneur, c'est l'esclave du Seigneur. Servir, nous fait dire la liturgie, c'est régner. Servir Dieu, c'est régner. C'est facile à dire, mais pour pouvoir servir Dieu, il faut vraiment être son esclave. Il faut vraiment se laisser humilier, traîner dans la bassesse, rejeter, rebuter, comme la très sainte Vierge l'a été par Dieu, par son Fils, par les hommes. Son Fils a substitué à lui-même saint Jean, qui était un très grand apôtre, mais qui n'était qu'un homme. Et en quelque sorte, c'est comme si à la croix, il l'avait, c'est Bossuet qui dit ça, il l'avait dépouillé de son titre de mère de Dieu et qu'il en avait fait la mère des hommes, simplement. Alors nous savons qu'elle est les deux, bien entendu, puisqu'il y avait là un geste mystique, mais l'humiliation de la très sainte Vierge Marie de se voir privée de son Fils et de voir son Fils divin, son unique, son bien-aimé, remplacé par une pure créature, une simple créature, saint Jean, et se voir soumise à lui d'ailleurs, puisque saint Jean l'a regardé comme sa mère et il l'a pris dans sa maison pour veiller sur elle, eh bien ça a été en quelque sorte l'humiliation suprême à la croix. Et la très sainte Vierge Marie, forte de cette exultation qui produisait en elle cette paix, s'est laissée humiliée par Dieu, de telle sorte que, s'étant humiliée, Dieu l'a exaltée au-dessus de toutes les créatures. Voilà pourquoi son plus glorieux titre n'est pas celui de reine du ciel, n'est pas de reine des patriarches, de mère très pure, de mère de la grâce divine. Son titre le plus glorieux, c'est la servante du Seigneur. Pourquoi disons-nous cela? C'est parce que c'est elle-même qui demande que nous l'appelions la servante du Seigneur. Ecce enim exsoc beata medicent omnes generationes. Voici, en effet, toutes les générations me diront désormais bienheureuses. Les générations chrétiennes glorifient Dieu par la très sainte Vierge Marie et la disent bienheureuse parce qu'en elle, la grâce n'a trouvé aucun obstacle. La béatitude de la très sainte Vierge Marie, mais la béatitude de la créature, est fonction du renoncement à soi-même. C'est pour ça que la Sainte Vierge dit « parce qu'il a fait en moi de grandes choses ». Quia fecit mihi mania qui potens est. Il a fait pour moi des grandes choses, celui qui est tout-puissant, et son nom est saint. Il y a quelque chose de très profond ici, nous ne pouvons que balayer superficiellement, malheureusement, mais il a fait pour moi des grandes choses, c'est le tout-puissant qui opéra en elle par sa grâce, de sorte que, pleine de grâce, elle n'est que ce que Dieu veut qu'elle soit. Ce qui semble pour la créature le comble, en quelque sorte, de l'absence d'ambition, est pour la très sainte Vierge Marie le summum de ce qu'une créature peut être. Toutes les créatures sont créées pour la gloire de Dieu. Toutes. Aucune ne peut se soustraire au fait de contribuer à la gloire de Dieu. Certaines y contribuent négativement, d'autres positivement. La très sainte Vierge Marie y a contribué de la façon la plus absolue dont une créature est capable d'y contribuer, pourquoi et comment, plus précisément, en étant rien. Et ces grandes choses que Dieu a faites pour elle, c'est la maternité divine, c'est quelque chose qui est proportionné à son humilité. Si l'humilité de la très sainte Vierge Marie n'était pas celle qu'elle a été, elle n'aurait pas été la mère de Dieu, elle aurait été peut-être la mère adoptive de Dieu. Mais parce que l'humilité de la très sainte Vierge a été la plus parfaite, elle a mérité de devenir réellement la mère de Dieu, ce qui n'est pas une petite chose. Le mérite de la très sainte Vierge Marie consiste dans sa conformité parfaite au dessein de Dieu sur elle. La Sainte Vierge est donc le chef-d'œuvre de la grâce efficace. Dans aucune créature, la grâce efficace n'a-t-elle trouvé moins d'obstacles que dans la très sainte Vierge Marie. Et quand je dis moins d'obstacles, c'est-à-dire aucun obstacle. Il n'y a eu qu'un seul obstacle, qui est relevé et rapporté par l'évangéliste, c'est lorsqu'elle a dit « Comment cela se fera-t-il puisque j'ai consacré ma virginité à Dieu ?» Le seul obstacle, en quelque sorte, qui n'en est pas un, que la grâce ait trouvé, c'était la structure parfaitement capable, la structure de l'ontologie de la très sainte Vierge Marie, parfaitement capable de recevoir le maximum de grâce. Ce n'était pas un obstacle, c'était une condition. La très sainte Vierge Marie n'a pas douté, elle a mis la condition. Elle a dit « Je ne peux pas déchoir de l'état parfait où je suis » et saint Gabriel lui a dit qu'elle ne déchoirait pas, au contraire, qu'elle deviendrait, tout en étant vierge, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu fait homme. En aucune créature, la grâce efficace n'a-t-elle trouvé moins d'obstacles que dans la très sainte Vierge Marie. « Et sanctum nomen eius » et son nom est saint. La sainteté de Dieu, nous disent les théologiens, est son absolue séparation d'avec les créatures. C'est ce qui le rend terrible aux créatures, même les plus saintes. Son nom est saint, Donc la très sainte Vierge Marie tremblait devant Dieu. Et elle ajoute « Et misericordiaeus a progenie in progenies dimentibus eum » et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. La miséricorde de Dieu est cette perfection de Dieu par laquelle il descend vers ses créatures, même les plus indignes, même les plus grands pécheurs, nous disent les théologiens. L'association de la sainteté de Dieu, infinie séparation, et de la miséricorde de Dieu, abaissement de Dieu vers la plus petite de ses brebis, mes très chers frères, cette association de la sainteté de Dieu et de la miséricorde de Dieu se réalise dans les créatures lorsqu'elles ont la crainte de Dieu. Timentibus eum. Lorsque nous craignons Dieu, nous bénéficions à la fois de sa sainteté, qui est une source de sanctification, la source de sanctification, et de sa miséricorde, qui est l'élévation à la participation à sa nature. Fecit potentiam in brachio suo. Dispersit superbos mente cordis sui. Il a déployé la force de son bras, il a récusé les orgueilleux qui étaient orgueilleux dans leur cœur. Tous les cœurs toutes les occasions pour lesquelles Dieu, toutes les occasions grandioses par lesquelles Dieu a délivré son peuple dans l'Ancien Testament n'étaient que l'image de la délivrance de la servitude du péché réalisée par le grand sacrifice expiatoire accompli au calvaire. Fecit potentiam in brachio suo. Il a déployé la force de son bras, effectivement, pour faire passer nos pères au travers de la mer Rouge, pour les défendre contre les nations, pour les faire revenir de l'exil. Mais tout ceci n'était que une image de ce que le grand sacrifice expiatoire réalisé au calvaire, réalise pour l'être humain. Il le soustrait au royaume, à l'influence de Satan, à l'influence du péché et de Satan, et il le transporte dans le royaume de Dieu qui est son corps mystique. Il a récusé les superbes. Il a déposé les puissants de leur trône et il a exalté les humbles. La condition pour bénéficier, mes très chers frères, de la puissante miséricorde divine, c'est de se reconnaître pauvre, impuissant, néant face à lui. Et ce n'est que du bon sens, sous un certain rapport. C'est-à-dire si notre raison est déviée, dévoyée, et en se refusant à se reconnaître telle qu'elle est, elle refuse son plus grand bien, puisqu'elle refuse la miséricorde divine. L'humilité surnaturelle, nous faisant renoncer à l'orgueil d'être à l'image. L'humilité naturelle nous consiste dans le fait qu'elle nous fait renoncer à l'orgueil d'être à l'image de Dieu, malgré la chute. Effectivement, nous sommes faits à l'image de Dieu, et c'est pour cela que nous sommes orgueilleux, parce que nous mésusons de cette image. Parce qu'elle nous fait renoncer à l'orgueil d'être à l'image de Dieu, elle nous rend, cette humilité surnaturelle, elle nous rend capable de devenir ses enfants en réalité. C'est-à-dire bien plus que des vestiges de l'image de Dieu, mais véritablement des enfants légitimement engendrés par leur père. Quiconque s'attache au bien qu'il trouve en lui et que la nature y a mis, eh bien se rend incapable d'atteindre la réalisation de cette nature, justement. Puisque nous attachant à des biens, finalement, des traces de bien, nous récusons le vrai bien. Mais si nous renonçons à tout ce que nous sommes, alors véritablement, nous déposons ou plutôt la grâce de Dieu dépose de son siège l'amour-propre, et il exalte l'humble, c'est-à-dire l'âme faite pour être à l'image de Dieu et faite pour être participante de la nature divine. Et exalta vit humiles. Les petits, les pauvres en esprit, les humbles, il a exalté les humbles, auxquels seul est réservé le royaume. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. C'est le fondement de l'humilité. Le fondement de l'humilité est la conscience et l'affirmation de notre dépendance de Dieu, de notre incapacité à rien faire sans lui, sans sa grâce. Et l'autre fondement de notre humilité, c'est notre incorporation au corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet d'opérer par lui et pour lui. Es orientes impavit bonis et divites dimisit inanes. Il a rempli de bien les pauvres, ceux qui avaient faim en réalité, et divites dimisit inanes. Et il a renvoyé à vide les riches. Ceux qui sont riches d'eux-mêmes, mes très chers frères, sont pauvres de Dieu. Ceux qui sont pauvres d'eux-mêmes sont riches des biens que Dieu nous donne, et le bien suprême que Dieu nous donne, c'est lui-même. Ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. C'est-à-dire que ceux qui sont pleins d'eux-mêmes sont condamnés à courir après les faux biens sans être jamais satisfaits. Les pharisiens ont été renvoyés parce qu'ils croyaient que leur justice était leur œuvre propre et non pas celle de la grâce divine. Comment pourrions-nous suivre leurs traces, mes très chers frères, et ne pas être nous-mêmes rejetés? C'est pour ça qu'il est écrit « Sushepit Israël puerum suum, recordatus misericordiae sue ». Il a relevé Israël, son serviteur, « recordatus misericordiae sue », s'étant souvenu de sa miséricorde. L'union de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église, le véritable Israël, l'union du chef et de ses membres, c'est l'effet de la puissance, de la pure miséricorde divine. Et c'est même en cela que consiste la miséricorde divine, être rattaché à celui sans lequel nous ne pouvons rien et par lequel nous pouvons tout pour glorifier notre Père céleste et porter beaucoup de fruits. C'est vrai que si la théologie nous fait confesser que sans lui nous ne pouvons rien, par ailleurs, la même théologie nous fait affirmer qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Avec lui, nous pouvons tout. Si nous ne pouvons rien, ce n'est pas une fatalité, puisque avec lui, nous pouvons tout. Nous ne pouvons rien tant que nous ne sommes pas avec lui. Mais avec lui, véritablement, rien ne peut résister à la puissance du bras de Dieu qui se déploie en nous. Et la Sainte Vierge termine en disant « Secuto vudus est as patres nostros, Abraham, et seminius in secula ». Comme il a dit, comme il avait promis à nos pères, à Abraham et à sa descendance pour l'éternité. L'incarnation est l'accomplissement des promesses faites à Abraham, de la promesse faite à Abraham, la naissance du véritable Isaac, le germe qui renferme, nous disent les théologiens, tous les élus, toute leur grâce, leur sanctification et leur salut éternel. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est, par le prophète, appelé lui-même germe. Voici un homme germe, etc. Alors, mes très chers frères, vous voyez, il y a quelque chose que nous devons dire en conclusion, c'est que le langage du Magnificat est le langage de l'Écriture sainte. Il faut le comparer au Cantique d'Anne, la mère de Samuel, il faut comparer au Bénédictus, le Cantique de Saint Zacharie, aux divers autres cantiques, certaines choses qu'on trouve encore dans Judith ou dans Esther. C'est un langage qui est éminemment scripturaire. Et c'est fait exprès. Ça veut dire que ceux qui se targuent d'être des gréco-latins à l'exclusion d'autres choses ne sont pas capables de comprendre ce langage. Et c'est bien dommage pour eux, parce que du coup, ils ne comprennent pas le langage de Dieu, et c'est pour cela qu'ils s'attirent sur eux-mêmes tous les ennuis et les problèmes et les confusions du monde. Ils refusent d'être humiliés en s'imaginant que c'est une doctrine qui est antisociale. Attention, c'est faux. Et refuser d'être humilié par Dieu, c'est refuser de régner, c'est refuser la grâce de Dieu, c'est spolier Dieu de l'esclave qui lui appartient et que nous sommes. Le langage du Magnificat n'est compréhensible, mes très chers frères, qu'à ceux qui se nourrissent des divines écritures, ceux qui aiment Dieu plus qu'eux-mêmes, et qui se nourrissent de ce pain sacré qu'est l'Écriture sainte, et qui deviennent familiers avec sa façon de parler, qui est la façon de parler de Dieu lui-même. Apprenons, mes très chers frères, la gratitude de notre Mère, la Bienheureuse Vierge Marie, et prions-la d'intercéder pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.